musique. Notre premier invité, c'est Louis, a.k.a. Le Caméléon. Salut Louis.
Salut.
Et oui, on n'est pas de retour dans les années 90. Vous n'êtes pas dans la trilogie du samedi soir, Le Caméléon. C'est bien un nouvel artiste, un musicien qui est au micro. Comment tu vas, Louis, ce soir ?
Eh ben écoute, tout va bien. Ce soir, bon, il fait encore assez jour, donc j'ai pas le sentiment
c'est
d'être
vrai.
Vraiment le soir.
On sait jamais quand il faut dire bonsoir, bonjour. À partir de 17h, c'est flou.
Mais c'est ça. En plus, là, il fait assez chaud ici. Bon, je rappelle quand même que moi, je viens de Lille, donc j'ai un peu l'impression d'être en vacances.
Oui, d'accord.
Là, c'est les Bahamas actuellement.
C'est la Méditerranée, là.
C'est ça, là, je deviens complètement fou.
Donc, tu viens de Lille, tu es musicien et tu participes à la demi-finale ce soir des Pulsations.
Ouais, exactement.
Le fameux tremplin musical qui voit chaque année des groupes rebondir. C'est comme ça qu'on fait hein, sur un tremplin. On rebondit, on fait quoi ? On prend de l'élan ?
Ouais, non, ça, c'est un trampoline.
Ah, c'est un trampoline. Mais pour moi, c'est la même chose. Louis, Le Caméléon, est-ce que tu peux nous présenter ton projet musical ?
Ouais, bah écoute, mon projet musical en deux mots, c'est un projet indie pop. Alors c'est moi qui écris toutes les chansons, c'est à la fois en anglais et en français. En termes d'influence, souvent je pense que les gens me parlent souvent de... ça leur rappelle James Blake ou Bon Iver, je sais jamais comment on doit dire. Je crois que c'est Bon Iver en fait. Bon, bref, voilà, donc il y a un peu cette vibe-là. Je pense que la construction est assez pop, mais que c'est plutôt les sonorités qui vont chercher parfois plutôt dans les sons électroniques. Voilà à peu près, je pense. Et alors en live, donc, c'est un projet qui est né en studio, tout seul. Et ensuite en live, là je suis accompagné d'un batteur qui s'appelle Rock de Roubaix. Et voilà, donc je vais jouer avec lui ce soir.
Très bien, alors il y a Nathan aussi qui va te bombarder de questions, Le Caméléon.
Oui, j'ai vu qu'il a une jolie petite feuille.
Il a une petite feuille qui est écrite manuscrite.
Ouais. Oui, à l'ancienne. Non, mais j'ai deux, trois petites questions comme ça. Et la première, c'est que je me suis posé la question. Bon, ça, ce sera une autre question qui viendra après, mais on va commencer par ça. Pourquoi Le Caméléon, tout simplement ?
Ouais, bah forcément, c'est la première question qu'on me pose généralement. Pourquoi Le Caméléon ? En fait, il y a plusieurs influences. Moi, déjà, le premier truc, c'est que j'aime bien que les gens se demandent. Moi, ça me fait plaisir que les gens ils se disent « Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors que si je m'étais appelé Louis Galcéran, bon bah, je pense que ça aurait été un peu terne.
Il y a pas de mystère.
Bah, c'est ça, puis ça fait vraiment, on dirait que sur ma pochette, je vais avoir une guitare et que je vais chanter des chansons sur une plage, bon, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce que j'aime bien dans Le Caméléon, c'est déjà que, premièrement, tu te demandes, surtout, c'est pas marqué esthétiquement, tu vois. Du coup, ça me permet de, disons que je me laisse de la marge, comme ça, si jamais un jour j'ai envie de changer, voilà, je pense que ça ressemble ni à un groupe de métal, ni à une esthétique en particulier, donc ça me plaît beaucoup. Après, je pense que peut-être inconsciemment, moi j'ai fait beaucoup de jazz, et j'étais quand même assez inconsciemment marqué par Chameleon de Herbie Hancock, il y a ça. Et après, j'aime bien aussi, enfin tu vois, vu que ça peut appeler beaucoup de références, je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah mais c'est pour faire un lien avec David Bowie, parce qu'on l'appelle le Caméléon du rock. » Bon, voilà. J'aime bien le fait que ça... les gens, en fonction de ce qu'ils ont écouté avant, ils puissent le relier à un truc qui leur rappelle leur musique. Quoi.
C'est l'interprétation de chacun, en fait.
Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça que j'aime bien. Et c'est un truc qui revient beaucoup dans les... Enfin, quand on me demande d'expliquer les paroles, je sais que je vois pas forcément l'intérêt, en fait, d'expliquer le sens. Parce que si j'explique le mien, j'ai l'impression que je fais perdre une partie de ce que les gens entendent, en fait. Et voilà. Je pense que à la fois le nom et les paroles, c'est un peu dans un même geste. Quoi.
Donc, d'ailleurs, tes morceaux, c'est ça, c'est assez... Alors, ça va être dur de mettre des mots dessus, mais moi, le premier qui m'est venu, c'est onirique.
Ok, bah merci.
On part dans un voyage auditif, visuel, et ça a l'air de titiller pas mal l'imagination. Et justement, à travers tes compositions, qu'est-ce que tu veux transmettre à ceux qui t'écoutent, ou en tout cas, où est-ce que tu veux les emmener ?
Bah, c'est une question que je me pose encore, donc je sais pas si c'est complètement fixé, ni si j'arriverai à le fixer un jour, mais c'est vrai que ce type d'adjectif type onirique, de toute façon dans ce projet ou dans d'autres projets, je suis quand même assez intéressé par le rêve et par ce type de concept, où les gens ce qu'on retrouve beaucoup dans l'électro, c'est que, une fois j'avais entendu une interview de Laurent Garnier qui disait, ce qui me plaît dans l'électro, c'est que les gens ils se lâchent, parce que la nuit en fait, ils font plus du tout attention à ce qu'ils sont, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, voilà. J'espère que je fais ressentir ça dans mes morceaux. Et après, de toute façon, moi quand j'écris mes morceaux, je sais pas si je réfléchis forcément à comment les gens ils vont l'entendre, c'est plus comment moi je me sens dedans, finalement c'est presque moi qui m'y perds avant les autres, quoi.
Ça ouais. sort du cœur et ensuite bah, tu dis à tes auditeurs, voilà, écoutez, en tout cas c'est sorti.
C'est ça, ouais.
J'ai besoin de sortir ça.
Et je pense que même dans ma démarche, quand j'écris, j'essaye le plus possible de... Enfin, moi j'ai toute une formation musicale, voilà, j'ai fait le conservatoire, machin. Et en fait, j'essaye vachement de pas faire appel à ça quand j'écris. Surtout dans ce projet. Alors j'ai d'autres projets où c'est moins le cas, mais dans ce projet, j'essaye d'être vraiment moins rationnel que je le suis d'habitude, quoi.
Nathan.
Oui, ben d'ailleurs, bon, moi en écoutant et en regardant un peu les paroles, tout ça, il y a un autre mot qui m'est venu, c'est le mot coloré, parce que il m'a semblé voir quand même un rapport avec les couleurs assez fort, ouais. Déjà rien que dans le nom de l'EP Polychrome, mmh. Et même en regardant un peu les paroles, du coup, je voulais savoir si, enfin déjà, que tu m'expliques. Quel est ton rapport à cette couleur et est-ce que cette couleur influence ta production musicale dans ce projet-là, le Caméléon?
Ouais, c'est vrai qu'en plus, en plus, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai dit, enfin pour expliquer mon nom de Caméléon, mais finalement ça peut être hyper intéressant même. Enfin, le fait que j'ai pensé aux couleurs comme thème du premier EP, c'est aussi en lien avec le nom que j'ai trouvé avant. Disons que mon but c'était aussi d'essayer de faire un espèce d'objet cohérent. Pour que tout se tienne. J'ai l'impression que c'était une bonne manière de se présenter, en fait. Mmh. Et après, pour les couleurs, alors déjà, moi, je suis daltonien. Donc, les couleurs, c'est quelque chose d'un peu abstrait, quand même. Bon, pas complètement, parce que je suis deutéranope, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, c'est pas grand-chose. Mais disons que je vois pas en noir et blanc non plus. Hein. Mais c'est vrai que j'étais vachement intéressé par les couleurs, surtout sur le plan visuel, en fait. Enfin, je veux dire, pas forcément dans les paroles, tu vois. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui lient des couleurs à des notes, à des hauteurs ou à des émotions, alors moi je sais pas si c'est vraiment mon cas, je crois pas, mais par contre j'avais pas envie, par exemple, je sais pas si vous avez pu regarder les clips, mais j'avais pas envie de me voir chanter, disons que je voulais qu'il y ait quelque chose de plus que juste les chansons, et je voulais qu'il y ait quelque chose d'abstrait, et je trouvais que le meilleur moyen de faire passer mes chansons, c'était au travers d'autres arts. Alors, par exemple, il y a à la fois les clips, mais en fait, dans les clips, il y a beaucoup de peinture, il y a beaucoup de gros plans. Donc, les clips, c'est ma sœur qui les a faits. En plus, on a un peu les mêmes références. Donc, moi, j'ai beaucoup parlé de Terrence Malick, par exemple, qui a des plans très longs, très, très ralentis et surtout très proches. Voilà, et surtout avec des couleurs qu'on finit par plus reconnaître. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Après, j'ai été aussi... peut-être que... Alors, je fais un peu une introspection, là. Je sais pas si c'est vraiment lié, mais je sais que moi, j'ai été pas mal marqué aussi par Rothko, qui est un peintre qui fait beaucoup d'aplats, en fait. J'ai pas exactement les termes techniques, mais je pense que ça s'appelle des sortes d'aplats. Je me rappelle que j'en avais vu un à Londres. C'était un grand aplat bleu. Alors, c'était le musée d'art moderne. Et en fait, on a beau rigoler à se dire... Bah, comme dans la pièce de Yasmina Reza, le tableau blanc sur blanc, un carré blanc sur un fond blanc.
C'est ça, ouais.
Bah finalement, en fait, quand on se retrouve devant, je me suis dit que c'était la première fois que je regardais vraiment cette couleur, quoi. Pour elle-même et pas juste dans un ensemble. Donc j'étais assez intéressé par ça. Donc voilà. Je crois que la couleur en général, c'est pas que pour ce projet. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai un autre projet, par exemple, qui est pour l'instant qui a une identité très noir et blanc, par exemple, qui est un projet de jazz. C'est pas par exemple, musicalement, c'est pas l'antithèse non plus de ce que je fais dans Le Caméléon, mais je trouve que c'est une bonne manière de marquer les auditeurs, de leur montrer un univers visuel clair, quoi.
Et justement, cet univers visuel que tu mêles à la musique, est-ce que ça rejoint le terme de texture sonore que tu emploies pour décrire ton projet, en tout cas le souligner?
Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai qu'il y a certains morceaux... C'est vrai que des textures sonores, je vais peut-être plus les rapporter... Enfin, il y a certains timbres que je vais peut-être plus rapporter à certains éléments. Je sais que, par exemple, j'ai déjà... bon, par exemple, moi, j'habite juste à côté de la gare. C'est très gris. Voilà, parfois, je pense vraiment à des éléments type... pas le béton, mais plus la roche ou ce genre de choses. Alors qu'il y a d'autres textures où je vais plutôt... imaginez ça comme quelque chose de très mouvant, comme, je sais pas, comme la mer ou ce genre de choses. Parfois on dit qu'il faut créer des vagues par exemple quand on parle d'automation, je sais qu'avec mon ingé son parfois on a plusieurs fois dit qu'il faudrait créer du mouvement, et donc des fois on dit qu'il faudrait créer des vagues dans, je sais pas, dans le reverb ou dans un élément. Et je crois que c'est plus ce registre d'image que je vais utiliser. Ouais. Donc ça s'applique un peu aux textures sonores. Ouais. Après, c'est... là j'essaye de mettre des mots pour rationaliser, mais en fait il y a beaucoup de choses que je... auxquelles je réfléchis pas vraiment. Peut-être que j'y pense inconsciemment, mais que pas forcément rationnellement. Quoi.
Donc du coup, tu chantes en langue anglaise et en langue française. Et moi, je me suis demandé, est-ce que le fait d'utiliser une langue plutôt qu'une autre signifie quelque chose de particulier dans la chanson ? Est-ce que le choix de la chanson est totalement réfléchi ou c'est totalement anodin ?
C'est pas anodin en tout cas. Je sais pas si c'est totalement réfléchi. Disons, c'est 75% réfléchi. En fait, c'est surtout que en anglais et en français, je peux pas dire les mêmes choses. J'arrive pas à dire les mêmes choses, ni de la même manière, ni. Enfin, tu vois, il y a des phrases qui vont pas marcher. Parfois, j'essaye de traduire, je me dis, mais est-ce que c'est pas juste par habitude que je le fais en français ou en anglais ? Parce que des fois, je me dis, je fais que des morceaux en français et qu'en anglais. En fait, non, quand je traduis, ça ne marche plus, quoi. Et alors moi, je suis très fan de Christine and the Queens, et franchement, je l'admire, parce que je sais pas comment elle fait pour arriver à traduire ses morceaux, et y a quand même, tu ressens quand même le même morceau, quoi. C'est pas une traduction, parce que finalement, sinon, il y avait beaucoup ça dans les années 50, tous les Français qui traduisaient les tubes.
Oui, bien sûr, ouais, ça c'était...
C'est très marrant maintenant qu'on réécoute. Mais par contre, souvent, c'est pas du tout le même morceau. Et elle arrive vraiment à faire ça. Bon, je l'admire pas que pour ça, mais... Et en tout cas, c'est très réfléchi, hein, ce truc des textes, parce que y a des choses que j'arrive pas à dire en français, que je peux dire en anglais, et inversement. Ça, et aussi, je pense que... alors peut-être que c'est moins le cas maintenant, mais je pense qu'au début, c'était beaucoup plus dur pour moi d'écrire en français. Parce que, bah, déjà, je pense que, tout simplement, j'ai, dans mes influences, il y a beaucoup plus de trucs anglais. Et... je pense que je me cache plus facilement derrière aussi. Tu te caches beaucoup plus facilement derrière l'anglais quand c'est pas vraiment ta langue. Tu vois, tes proches, ils comprennent pas forcément. Voilà.
Peut-être que le français, pour avoir quelque chose qui sonne, quelque chose de poétique, est beaucoup plus exigeant que l'anglais aussi.
Bah, je sais pas si c'est ça, je suis pas sûr, parce que parfois, en anglais, c'est difficile aussi de faire sonner certains trucs. Parce que justement, ça paraît tellement dit et redit. Je me pose la question, c'est en réflexion.
Donc on a la chance de te voir ce soir sur scène à Espace Campus.
La chance, j'espère. Oui.
Ah bah, évidemment que c'est la chance, Louis. Tu joues à quelle heure ce soir ?
Je joue à 22h40.
22h40, très bien. On rappelle, hein, les festivités, ça commence à 20h. C'est bien ça, hein ?
Oui.
Ouais, voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Donc, très bien. Et justement, ça te fait quoi ? Enfin, pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure des pulsations ?
Je me suis lancé dans l'aventure des pulsations parce que, parce que en fait, c'est pas le seul tremplin auquel je candidate. Je candidate à pas mal de tremplins pour essayer de développer mon projet. En fait, un peu comme tous les groupes qui vont vous répondre, je pense que vous, en plus vous en avez déjà eu. Forcément, j'essaye de développer un peu les deux casquettes principales d'un groupe aujourd'hui en musique actuelle, c'est-à-dire à la fois le live et le studio. Et là, ça m'aide. Déjà, ça m'aide à faire sortir mon projet de ma région, ce qui n'était pas encore arrivé. Pour l'instant, j'ai fait que des dates dans le Hauts-de-France. En tout cas avec ce projet, hein. Et aussi potentiellement ça peut m'aider à avoir du financement si je gagne, donc ça m'aide aussi beaucoup forcément. Alors il y a ça dans les tremplins, le financement, mais forcément moi j'essaie aussi d'en avoir avec les leviers habituels type les collectivités territoriales, ce genre de choses. Voilà, je commence à avoir une certaine structuration, donc je commence à pouvoir en demander de plus en plus. Voilà, ça ne veut pas dire que je les ai, mais au moins je les demande, donc c'est pas mal. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je reviens au live, il y a potentiellement, pour celui qui gagne, d'autres programmations. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense que j'ai, vu que c'est un projet qui est vraiment né du studio, je pense qu'il faut que je le sorte pas mal, que je le montre aux gens directement. Déjà, moi, ça m'entraîne à être beaucoup plus à l'aise. Là, je sens que je commence à l'être. Et... voilà, j'ai l'impression que ça me nourrit aussi de pouvoir les rejouer ces morceaux. Des fois, je les redécouvre un peu parce que finalement, c'est des choses que j'ai fait très vite. Et en les rechantant, en les rejouant, je redécouvre des choses auxquelles, encore une fois, je n'ai pas forcément pensé consciemment. Quoi.
Et j'imagine que tu as été pas mal au contact des autres groupes finalistes.
pas mal très rapidement, mais okay, là, disons peu. Depuis une heure là on mange des gâteaux et des bonbons.
D'accord. Ça voilà. Va, ça se passe bien.
Ça se passe assez bien.
Vous êtes pas trop tendus tous là.
Bah, écoute, pour l'instant ça va. En même temps, on joue dans longtemps, hein, donc.
Dans longtemps, fais gaffe, ça va arriver vite.
Oui, ça va.
Je vais pas te stresser.
Non, mais en vrai, je suis assez à l'aise. Après, je pense qu'il faut pas non plus éviter le stress à 100%.
Non, bien sûr.
Parce que c'est
toujours un petit peu de trac.
Bah ouais, parce que sinon, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. En fait, moi, j'ai l'impression que le stress, si j'ai du stress ou du trac plutôt, c'est parce que j'ai envie de bien faire, en fait. Si je suis pas stressé du tout, je me dis, c'est que je m'en fous, quoi. Et ça m'est déjà arrivé sur d'autres projets où je me dis, ah oui, mais en fait, faut que j'arrête de faire ce genre de projet parce que si, en fait, j'ai l'impression que je m'en fous si c'est bien ou pas. Donc peut-être que ça vaut pas le coup que je reste là, quoi.
Du coup, on en a déjà parlé un peu, mais tu as d'autres projets musicaux à côté. Et du coup, j'aurais aimé que tu nous parles rapidement un peu de ton activité en tant que beatmaker.
Ouais.
Et de ton groupe du coup de jazz Hasard Noir.
Ouais. Alors, mon activité de beatmaker, c'est, bah, en fait, ça s'est fait parce que j'ai rencontré des gens. Disons que c'est encore une fois, j'ai l'impression que j'arrête pas de dire que tous mes choix ne sont pas faits consciemment. J'espère que j'ai encore un peu une prise sur ma vie, mais je suis pas certain. En attendant, je pense que c'est surtout parce que j'ai rencontré des gens dans des studios et que finalement, ça a bien matché. Du coup, par exemple, il y a un beatmaker avec qui j'ai beaucoup travaillé et je continue de beaucoup travailler, c'est Lucci, qui est un beatmaker à Lille. Voilà, on a fait un paquet de morceaux et je pense que c'est lui qui m'a pas mal lancé dans le beatmaking, qui m'a donné envie de continuer à en faire. Voilà. Du coup, j'ai pu collaborer avec Bécard, avec Ben PLG. Alors ça, c'est pour parler un peu de la scène des Hauts-de-France, donc la scène régionale. Il y a qui d'autres ? J'ai peur d'oublier des gens. C'est sûrement Balao. Bon voilà, il y a la scène régionale. J'en oublie très probablement. Et après, depuis peut-être un an, je commence à avoir quelques morceaux un peu plus nationaux. Là, encore une fois, avec Lucci, on a pu. Alors lui, il a produit tout l'album le dernier album de Giorgio. Moi, je suis sur 3 ou 4 morceaux, je pense. 3 ou 4, je ne sais plus. Voilà. J'oublie encore une fois sûrement beaucoup de choses, mais voilà, je pense que c'est un truc que je fais à côté. Alors, je me verrais pas faire que ça,
okay.
Parce que ça me rend un peu fou quand même. Enfin, faire que ça, j'ai déjà essayé en fait, de me dire, allez, maintenant, là, je fais des prods pendant une semaine. En fait, ça, c'est quelque chose de... C'est bien à petite dose. Voilà, c'est avec modération, parce que si je faisais pas mon projet à côté, si je faisais que des prods, je pense que je serais frustré, parce que tu dois vachement rentrer dans certains codes en fonction de, par exemple, à qui t'envoie, ou alors si t'es en direct. D'ailleurs, quand on dit beatmaking, souvent c'est plutôt pour le rap. Là maintenant, je fais aussi de la composition avec d'autres artistes qui sont un peu plus hybrides, par exemple avec Malo Lafleur qui vient de lancer son projet. On a fait une semaine de studio il y a une semaine. Là par exemple, je me sens beaucoup plus libre parce que dans le rap, je dois quand même rentrer dans certains codes.
Oui.
Alors que là par exemple, c'est un projet qui est assez libre. Voilà, il y a aussi récemment, il y a la Philanthrope qui a une patte un peu plus électronique. Donc encore une fois, en plus, c'est parce qu'on me demande, parce que sinon, moi, faire des prods de house, je crois que j'aurais jamais fait tout seul, quoi. Et d'ailleurs, je sais à moitié le faire. Finalement, pendant la session, je suis obligé de réécouter des trucs, je me dis, ah oui, en fait, ils mettent le hi-hat ici, ok. Donc, mais en même temps, ça me fait marrer. Ça me nourrit beaucoup pour mes prods à moi. Parce que, en fait, c'est là que j'essaye plein de choses. Et ça, c'est cool, ça me nourrit beaucoup, quoi.
Okay.
Voilà. Et ah oui, et pour Hasard Noir, j'ai pas oublié la deuxième partie de la question. Hasard Noir, c'est... En fait, moi, j'ai toujours voulu... comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une formation à la fois en jazz et en musique actuelle. Alors, en pôle supérieur, mais aussi au conservatoire. J'ai commencé qu'à 18 ans, vraiment à être dans une structure. Avant, j'ai pris quelques cours en particulier, de piano. Et donc Hasard Noir, en fait, c'est avec d'autres étudiants que j'ai rencontrés en jazz conservatoire. Voilà, au début, on savait pas forcément. Alors, le nom, j'ai trouvé l'été dernier. Vraiment, j'ai cherché comme c'est pas possible parce que vraiment tout était pris. Et encore une fois, je voulais aussi que ce soit quelque chose avec une sorte d'identité. Parce que, alors, en musique actuelle, on le voit, mais par exemple en jazz, c'est quand même assez rare qu'il y ait une identité visuelle, je trouve. Il y a que quelques albums où il y a vraiment ça. Et souvent, bah, il y a la tronche des mecs et il y a écrit leur nom, quartet. Voilà. Au début, moi, ça s'appelait Louis Galcer en trio. Et maintenant, je trouvais ça dommage parce que je pense que ça bloque plein de gens. Il y a plein de gens qui n'iraient pas forcément écouter alors que peut-être la musique leur plaît. Mais c'est juste l'emballage qui leur plaît pas.
Oui.
Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de repenser à ça. On a sorti. Donc c'est moi qui écris tous les morceaux, mais on a sorti un album en mars, en fin mars, le 24 mars, moi je suis paumé. Le 24 mars, ouais, c'est ça. On a sorti un album de 9 titres, voilà, avec 8 compos et une reprise de McCoy Tyner, donc vraiment un standard que j'ai réharmonisé. C'est du jazz, alors je peux continuer pendant des heures là, mais c'est, en gros c'est du jazz, disons, européen, c'est pas très swing, c'est plutôt...
Alors désolé, hop là, ouais, oui, on organise plein de choses aujourd'hui, donc forcément on laisse les sonneries, ouais. Mais c'est pas bien, c'est la seule fois de ma vie que ça arrive et ce sera la dernière.
T'inquiète, je le prends très mal.
Mais j'espère bien le cabelléon.
Non mais du coup c'est pas très swing, c'est du jazz plutôt moderne, on dit parfois jazz européen, je sais pas exactement comment dire, mais voilà, c'est ce genre de choses.
Ok.
Le caméléon, merci beaucoup. Malheureusement, ça passe vite.
Une interview. Oui, mais je parle beaucoup, faut savoir.
Mais c'est que des choses intéressantes. Et surtout, on se quitte pour l'instant, mais on te retrouve tout à l'heure sur scène à Espace Campus. On te souhaite de passer un excellent concert. Et est-ce que tu as un dernier... On va pas se quitter comme ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. On va écouter une de tes compositions.
Yes.
Nobody Wins.
Allez.
C'est parti. Bon concert à toi et à tout à l'heure.
Merci.
Sun has set.